Bonjour Régis.
Bonjour.
Bien en face du micro, s'il vous plaît, Régis.
Bonjour.
Voilà, sinon je vais vous mettre à l'amende. Oui. Et Franck, bonjour Franck.
Bonjour.
Alors, vous êtes venu nous parler de votre association. C'est une association, les Ruchers de Riolet, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Exactement.
Alors, on y fait quoi aux Ruchers de Riolet? On fabrique des ruches?
On crée de la formation pour avoir... être apiculteur de loisirs.
Ouais. Hein.
Donc, pour les gens qui sont intéressés pour faire de l'apiculture au fond de leur jardin ou sur un terrain, etc. On leur donne toutes les clés, en fait, pour faire une apiculture de loisirs, hein, je précise bien, dans le respect des abeilles et avoir les bonnes pratiques.
Le respect des abeilles, c'est-à-dire qu'on se pose la question du bien-être animal, y compris pour l'abeille.
Tout à fait. Tout à fait, parce que effectivement l'abeille est de plus en plus en danger.
Ouais.
Donc effectivement, entre les parasitoses, les maladies et tout l'écosystème qui est en défaut actuellement, effectivement les pratiques apicoles ne sont plus les mêmes qu'il y a 50 ans. Donc il faut s'adapter. Donc pour ça, il faut bien connaître le métabolisme de l'abeille, son cycle de vie, etc. etc. Donc il faut s'adapter. C'est pour ça qu'on donne des clés théoriques et des cours pratiques aussi sur les ruchers, sur une année en fait, une année complète d'apiculture.
L'idée c'est quoi? C'est quand même au final de pouvoir, à un moment ou un autre, récolter du miel, ou ça c'est totalement secondaire?
Alors nous, au rucher école, notre but n'est pas de faire du miel, c'est effectivement de créer de la formation. Effectivement, après, les gens qui ont une ruche au jardin, s'il y a du miel qui coule un petit peu en fin de saison, ça peut être intéressant.
Ouais. Hein,
selon les secteurs, effectivement, les productions vont être plus ou moins... Ça dépend vraiment du biotope qu'il y a autour. Ça, c'est important de le savoir. C'est ce qu'on explique aussi aux élèves du rucher, c'est de savoir où installer les ruches et comment les gérer.
Est-ce que si j'installe une ruche, je dois également penser à ce moment-là à fleurir l'environnement, à planter ce qui va aller bien, à laisser les choses se faire pour que l'abeille puisse y trouver son contentement?
Mais évidemment, déjà, protéger l'abeille, c'est déjà alimenter l'abeille.
Ouais.
Déjà, même il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir quelquefois, qui n'ont pas de place pour mettre des ruches, qui nous disent comment on peut faire pour aider l'abeille, planter des espèces mellifères. Et la manière, il y a beaucoup aussi, l'intérêt d'un apiculteur, c'est aussi de voir ses abeilles butiner dans son jardin. Donc il y a l'aspect de voir les abeilles sortir de la ruche, etc., etc., la visite de la ruche, mais aussi de voir les abeilles butiner sur des différentes espèces de plantes, c'est aussi jouissif.
Comment ça se passe quand on habite, à proximité d'autres voisins? La ruche, ça peut être comme la poule ou le coq, un objet de conflit ou...
C'est un objet de conflit souvent, effectivement. Il y a des réglementations, il y a des lois, des arrêtés préfectoraux qui font qu'il y a certaines distances à respecter. Après, c'est aussi du bon sens, respecter son voisin. On ne peut pas mettre 250 ruches en plein centre-ville. Ça, c'est complètement aberrant. Même s'il y a un potentiel pour butiner, mais c'est totalement incohérent. Il faut savoir vivre ensemble. Hein.
Elles dorment pour l'instant, vos abeilles?
Pardon?
Elles dorment encore, là, pour l'instant, les abeilles?
Non, du coup, c'est en plein réveil. Les abeilles commencent vraiment à se réveiller. Là. On a eu un printemps qui est assez précoce. Les ruchers ont commencé à bien démarrer, mais là, on a un petit coup de froid ces 15 derniers jours. Effectivement, ça s'est un peu calmé, mais ça démarre bien.
C'est-à-dire que hier, je suis allé dans mon rucher,
oui.
Et ça sortait bien.
Ouais.
Et c'est agréable de regarder ces abeilles.
Vous les regardez rentrer, sortir?
Rentrer et sortir, c'est magnifique.
Ouais. Comment on fait pour installer une ruche? L'objet existe, hein, cette boîte avec ses cadres. Ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Soit on va récupérer un essaim, on va dire sauvage, c'est-à-dire un essaim qui est parti d'une ruche qui s'est posée là, on vient récupérer l'essaim, ou alors les essaims se vendent. Hein. Il y a un commerce qui se fait, comme pour les poules et les canards. Hein. On peut acheter un essaim, on peut acheter des rennes. Il y a tout un commerce qui se fait là-dessus aussi.
Et il y a différentes espèces, finalement, d'abeilles, ou alors...
Là, c'est une question un peu piège, parce que je vais vous dire, il y a plus de 2500 espèces d'abeilles en Europe.
D'accord.
Le genre Apis mellifera, qui fait le miel... effectivement, après il y a plusieurs variétés.
D'accord.
Il y a l'abeille noire qui est emblématique du nord, enfin du nord de l'Europe. Après, si vous allez plus vers l'Italie, il y a la linguistica, donc l'abeille italienne. Il y a la buckfast qui est vendue actuellement, qui est une hybride. Il y a plusieurs espèces effectivement qui ont coexisté, enfin qui ont coévolué avec leur environnement.
Mmh.
Hein, ici, vraiment dans le nord de l'Europe, on est sur d'abeilles noires. Ça s'appelle Apis mellifera mellifera. pour les termes techniques.
D'accord. Donc, quand c'est comme ça, on monte son rucher. Et puis, ce que vous allez donner comme formation, c'est quoi ? C'est,
En fait, on a toute une formation qui va vers sur le théorique, déjà.
Ouais. Hein,
qui va vers vraiment la biologie de l'abeille. La théorie aussi sur comment pratiquer cette apiculture. Et après, les cours pratiques, effectivement, pour manipuler. Parce que c'est une grande part aussi, c'est de la manipulation. La théorie, c'est bien. Mais l'un sans l'autre ne fonctionne pas. Si on va au rucher, qu'on n'a pas de théorie, si un jour il y a un problème, comment on s'en sort ?
Comment on s'en sort ?
C'est comme la mécanique. On sait conduire une voiture, on ne sait pas forcément dépanner le moteur.
Ouais. On la dérange, l'abeille, quand on manipule ? Est-ce qu'on a besoin de manipuler ? On ne peut pas lui foutre la paix un petit peu à cette petite bête ?
On pourrait. Hein. Elle existe avant l'homme, hein, sur Terre, ouais. Déjà. Donc, c'est vrai qu'actuellement, avec... la nature qui se dégrade de plus en plus, effectivement, il faut l'aider.
C'est-à-dire que sans l'intervention, c'est plutôt, c'est un confort qu'on lui donne ?
Pas forcément un confort, parce qu'on vient l'élever.
Ouais.
À l'état sauvage, elle peut vivre très, très bien toute seule. Par contre, il y a tellement de nouveaux parasites qui sont intervenus depuis quelques années, depuis les années 80 essentiellement, avec le varroa. Si on ne fait pas les traitements sanitaires qu'il faut, les ruches s'effondrent au bout de 4 à 5 ans.
Alors le varroa, ça c'est ça, le pire du pire, c'est ça, c'est...
C'est un petit acarien qui vient sucer en fait l'hémolymphe de l'abeille, hein, qui est ouais. Un peu le sang de l'abeille, et qui lui ramène en fait plein de parasitoses qui affaiblit les ruches au fil du temps.
C'est à ce moment-là qu'il n'y a plus d'autre choix que de brûler finalement pour s'en débarrasser ?
Il y a d'autres choses.
Ouais.
On brûle pour d'autres maladies.
Ces maladies, elles sont véhiculées par quoi ? Elles arrivent comment ? Elles ont toujours été là ou...
Elles ont toujours été là. Après, il y a les facteurs causants en fait, qui vont créer soit une reine qui est un peu défaillante, ouais. des maladies, un affaiblissement de la ruche qui vont créer en fait la maladie. Mais ces maladies ont toujours existé. Le varroa, lui, par contre, c'est un acarien qui vient d'Asie, et qui était importé dans les années 80 en France, qui maintenant est rempli qui est sur tout le territoire, mmh. Et qui est vraiment un fléau, parce que comme c'est un insecte suceur qui vient pomper les hémolymphes, notamment de la larve, au moment de la larve, et sur l'insecte complet, c'est-à-dire l'abeille,
ouais.
Vient faire des micro-perforations au niveau de sa chitine, de sa carapace, hein, et vient inoculer des maladies.
Donc l'abeille n'est pas malade.
Déjà, elle est déjà plus favorisée, enfin, elle favorise plutôt les maladies. En plus, elle est affaiblie,
ouais.
Parce que déjà, bébé, état de larve, elle est moins bien nourrie,
ouais.
Donc affaiblie, donc en fait qui donne des abeilles plus faibles, et souvent les jeunes abeilles sont les nourrices qui vont renourrir les larves, donc déjà vous avez des abeilles qui sont déjà affaiblies à naissance, celles qui vont naître sont déjà affaiblies, donc c'est tout le métabolisme, hein, c'est ce qu'on explique au rocher-école, au niveau des glandes hypopharyngiennes, j'ai un peu des termes techniques, qui vont créer la gelée royale par exemple, vont être plus faibles,
mmh.
Donc la nourriture sera moins bonne, donc toute la colonie va s'effondrer. Et ces abeilles qui sont parasitées, les abeilles, ce qu'on appelle les abeilles d'hiver, hein, parce qu'il y a moins de reproduction en hiver, parce que les abeilles vivent 6 mois l'hiver, enfin à peu près 6 mois.
Ouais.
Donc si elles sont déjà affaiblies, il y a un effondrement des colonies qui se fait pendant l'hiver, d'où des pertes énormes de colonies qu'on a automne, hiver et printemps.
Aujourd'hui, on voit des pratiques, hein, qui se sont généralisées, ça a pris du temps. Il a fallu lui expliquer pourquoi on faisait de la gestion différenciée, pourquoi il ne fallait pas faire de la tonte systématique. On a l'impression que les choses changent dans la gestion du territoire. Est-ce que, on sait également que les apiculteurs étaient fâchés contre le monde agricole. Ça reste compliqué de ce côté-là sur l'usage de pesticides qui viennent nuire finalement à l'abeille.
Effectivement, après, faut savoir vivre ensemble, je pense,
ouais.
Déjà. Les bonnes pratiques, c'est autant pour l'apiculteur que pour l'agriculteur. Maintenant, il y a des lois, c'est pareil, hein, des lois qui sont là. Les traitements doivent être faits à des horaires, certains horaires. Il y a le vent qui ne doit pas être là. Après, faut savoir vivre ensemble, comme je dis. Hein. L'agriculteur doit s'entendre avec l'apiculteur et l'apiculteur avec l'agriculteur. Faut pas arrêter de se jeter la pierre l'un l'autre.
Mmh.
Je pense qu'il faut créer un dialogue et puis savoir vivre ensemble.
On peut rappeler également que l'abeille, c'est un élément moteur important, finalement, pour la fécondation.
Évidemment, pour le butinage. Le butinage fait qu'effectivement, la pollinisation, c'est très important. À savoir aussi que vous parliez des pratiques agricoles. Nous, on parle de Apis mellifera mellifera. Donc l'abeille que l'on élève, il existe plus de 2000 variétés d'abeilles sauvages, ouais. Qui sont tout aussi importantes. Et qui sont souvent inféodés à un type de plante, parce que notre abeille qu'on élève ne va que sur un certain type de plantes, alors qu'il y a plein d'autres types de plantes qui ne sont fécondées que par des abeilles solitaires.
Quand on n'embête pas l'abeille, c'est une bestiole qui va nous laisser en paix, tranquille.
Tout
parce que
fait.
La crainte, c'est quand même notre cerveau reptilien qui va dire attention, danger, piqûre.
Exactement, ça peut être dangereux. Hein. Par contre, notre abeille, tant qu'on ne va pas, par exemple, à l'accès direct d'une ruche, il n'y a aucun problème. L'abeille qui butine, n'a aucun problème. C'est comme une vache qui pâture. Hein. Elle est là pour travailler, si on l'embête pas, il n'y a aucun souci.
Pas de geste brusque.
Le rôle du bourdon.
Le bourdon, c'est pas une abeille, hein, c'est un bourdon, hein. C'est genre bombus. Pareil, hein, il est là pour la biodiversité, hein, il va butiner sur certaines plantes. Il y a certaines plantes qui ne sont pas butées que par les bourdons. Je prends par exemple le pois de senteur. Le bourdon est capable d'aller perforer la sucourole de la fleur pour aller chercher le nectar,
ouais.
Que l'abeille est incapable de rentrer dans cette fleur pour aller la butiner.
Se sert du trou pour pousser.
Donc c'est vraiment certaines variétés de plantes, selon la forme de la fleur, certaines abeilles qui vont les butiner, pas d'autres. C'est pour ça que je vous disais, notre abeille est utile, notamment pour tout ce qui est verger, etc., etc., parce que c'est des fleurs qui sont ouvertes. Hein. Par contre, il y a beaucoup de types de plantes sauvages,
ouais. Hein,
qui font forcément, mais qui sont butinés par d'autres espèces d'insectes. Il n'y a pas que l'abeille, hein, il y a plein d'abeilles, plein d'insectes qui font. Et c'est pour ça que c'est intéressant de préserver cette biodiversité.
Même un apiculteur amateur, finalement, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui connaît bien l'abeille, mais également très sensible à la question de la botanique de façon générale.
Je pense que ça va se perdre. Si on s'intéresse à l'abeille, c'est parce que, notamment les amateurs, hein, je parle, ouais. Si on n'est pas amoureux un peu de ce qu'on voit, de la nature et de l'observation. C'est ça aussi qui est intéressant, ça ouvre des fenêtres sur un visu différent au niveau de la biodiversité, au niveau de l'écologie et au niveau du savoir vivre ensemble, comme je disais, mais il n'y a pas qu'entre les hommes, hein, entre les bêtes et l'homme. Il faut respecter son milieu.
Ben, est-ce que la présence d'une ruche dans un verger, ça peut contribuer finalement au rendement du verger ?
Ah mais tout à fait, tout à fait. Sur certaines cultures, on arrive à des pourcentages qui vont au-delà des 60-80%.
En plus, par
oui,
rapport
oui.
Quand,
tout à fait.
Quand une ruche est installée
alors, sur les vergers, je n'aurais pas vraiment les chiffres, mais on peut parler de 50%. Je sais, par exemple, sur des fraisiers, c'est plus, largement plus 60%, parce que s'il n'y a pas d'insectes qui butinent, la fleur est incapable de se butiner, de se féconder automatiquement. Vous allez avoir des fruits qui vont être déformés, moins gros, des tailles différentes, donc au niveau de production, effectivement,
et le goût
c'est
différent.
Très important.
Vous êtes installé où à Riolé ?
Juste à côté de la chèvrerie.
Au Théry des Argales.
Au Théry des Argales, exactement. Oui.
Voilà. C'est un lieu magique, ça.
C'est magnifique. Le plus grand Théry plat d'Europe.
Ouais. C'est un lieu, finalement, qui a été aménagé, pensé de façon tout à fait pertinente, puisqu'il y a des espaces de loisirs, mais il y a également de grands espaces où la nature peut s'exprimer. On y trouve des abeilles, on y trouve des batraciens également exceptionnels, on y trouve des plantes.
Oui, oui, tout à fait. C'est un lieu assez emblématique, hein. Pas mal d'espèces sauvages qui sont là, de batraciens, on parlait d'oiseaux, il y a un site ornithologique. Je pense aussi à une espèce de crapaud, je ne me souviens plus le terme, qui est emblématique des dunes, qui se trouve sur les sites, on en trouve nulle part ailleurs.
Finalement, c'est la démonstration également que l'oiseau et l'abeille, ça peut cohabiter, quoi.
Mais tout à fait.
Et ça doit cohabiter.
Ça doit coexister.
Coexister, ouais.
Oui, parce qu'en plus de l'abeille, on va parler des abeilles en général, hein, qu'elles soient sauvages, etc. Beaucoup d'oiseaux sont insectivores, notamment au jeune âge. On va parler par exemple des perdrix qui se nourrissent d'insectes. C'est la majeure partie de l'alimentation. Il est important quand même d'avoir justement cette biodiversité pour nourrir les oiseaux.
On vous contacte comment, Franck, Régis, au rucher de Riolé ?
Au rucher école de Riolé, nous sommes ouverts tous les premiers samedis du mois,
ouais.
De 14h30 à 16h30 en gros. Et on accueille le public, les gens qui veulent venir nous voir, s'intéresser à l'abeille, poser des questions, sont les bienvenus.
Et sur le moteur de recherche, on retrouve vos coordonnées également facilement. Sur internet, vous êtes visible. On va y travailler.
On a un site Facebook qui existe.
Qui
virevolte un petit peu parce qu'on est très occupé, donc on n'est pas forcément sur l'informatique, on est plus sur le terrain.
Donc les abeilles ne font pas le buzz.
C'est clair.
Voilà, hein, je ne pouvais pas passer à côté. Puis on rappellera également que ce n'est pas forcément pour faire son miel, mais véritablement pour une passion, voilà. Que vous donnez rendez-vous donc à ceux et celles qui veulent se lancer dans l'aventure. On devient mordu une fois qu'on y a goûté.
On devient piqué, oui.
Ouais, c'est le cas de le dire. Voilà. Et puis on va conclure comme ça. Merci beaucoup, ouais,
merci
d'être,
beaucoup.
D'être passé chez nous. Bonjour. Je vous souhaite une belle saison, une bonne journée. Qu'est-ce que vous allez proposer aujourd'hui, Place Saint-Amé, à l'ensemble des visiteurs qui vont déambuler dans ce village de la Journée Verte?
Là, on a un petit stand où on présente un petit peu l'abeille, un peu les abeilles en général. Hein,
ouais.
Et on a un petit stand où on fait des bougies pour les enfants. Ils peuvent rouler leurs bougies en cire d'abeille. On a quelques bougies moulées aussi.
Merci beaucoup et voilà. Bonne journée.